Voilà, bonsoir à tous. Donc pour cette méditation de la parole de Dieu, je vais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et prions premièrement afin que Dieu puisse me soutenir dans l'annonce de sa parole. Seigneur Jésus, nous l'avons dit il y a quelques instants, tout n'est que grâce dans notre vie. Et pour qu'un homme, une femme puisse se tenir devant un auditoire pour annoncer ta parole, il lui faut vraiment ta grâce et ton onction. Christ, saisis-moi par ton esprit, que ton onction me communique ta volonté et ta pensée, que cette parole soit diffusée selon la vérité de ton esprit, pour la seule gloire de ton nom, pour la transformation de nos vies, pour le salut des âmes. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons ensemble l'évangile de Jean, chapitre 9, je lis à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Et d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi. » Ils lui dirent donc « Mais comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue, j'ai pu voir. Ils dirent « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Je m'arrête là, donc, pour la lecture. Cet homme se trouvait dans une situation particulière qui n'était pas aisée, qui n'était pas facile. Il est dit que, par rapport au témoignage de ses voisins, de ceux qui le connaissaient, il était un mendiant. Il mendiait parce que il était aveugle, né aveugle, de naissance donc, et la vie n'était pas évidente pour lui, surtout à cette époque, à l'époque où cette histoire se passe. Et nous ne nous arrêterons pas sur la mendicité de sa condition, sur cette condition qui l'obligeait à vivre ainsi, mais je veux accentuer un peu ce message sur le fait que cet homme avait une double cécité dans sa vie. Il était aveugle de naissance. Donc, de manière naturelle, avec les yeux naturels qu'il avait, il ne pouvait rien voir. Et puisqu'il était né aveugle de naissance, il n'avait jamais rien vu de sa vie. Il n'avait jamais vu le monde qui l'entoure, il n'avait jamais vu les personnes avec lesquelles il pouvait parler, il n'avait jamais vu les personnes même qui pouvaient faire preuve de bonté envers lui lorsque, malheureusement, il était encore dans la mendicité. Il ne voyait pas, il n'avait jamais rien vu. Mais en plus d'être né aveugle, il était aussi spirituellement aveugle. Parce que lorsqu'on lui pose la question, « Mais comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il dit « L'homme qu'on appelle Jésus ». C'est tout ce qu'il connaissait de cet homme. Il savait seulement que cet homme s'appelait Jésus. Mais dans la réalité, il ne connaissait pas qui est Jésus. Il ne savait pas que Jésus, qui avait croisé son chemin ce jour-là, c'était Dieu sur la terre. Il ne le savait pas. Il savait seulement qu'il s'appelait Jésus. Le verset 35 nous le précise, parce que Jésus, après lui avoir ouvert les yeux, va le croiser de nouveau. Parce qu'entre-temps, il va rencontrer des personnes, justement, et notamment les pharisiens, qui, lors de la discussion, n'acceptant pas donc ce qu'il va leur dire, c'est Jésus qui lui a ouvert les yeux, donc ils vont le chasser. Et à ce moment-là, Jésus le croise son chemin de nouveau. Mais là, maintenant, il n'est plus aveugle. Le miracle a déjà eu lieu. La bénédiction a déjà eu lieu dans sa vie. Il a été touché par la grâce, un miracle a eu lieu par Jésus-Christ, nous l'avons lu, et maintenant il n'est plus aveugle, ses yeux physiques, naturels se sont ouverts, il a découvert le monde réel qui l'entoure. Mais malgré ça, il reste encore aveugle. Mais il est maintenant toujours aveugle spirituellement parlant. Parce que Jésus, quand Jésus le rencontre à nouveau, alors qu'il voit maintenant, Jésus avait appris, donc il est dit au verset 35, qu'il avait été chassé par les pharisiens notamment. Il le rencontre, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et lui, il répond « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Ça veut dire qu'il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas que le Jésus qui était en train de lui parler, c'était lui le Fils de Dieu, Dieu sur la terre. Donc spirituellement parlant, même s'il avait recouvré la vue, naturel, mais il était encore aveugle spirituellement parlant. Et donc, malgré cette bénédiction remarquable qui ne laisse personne indifférent, eh bien, cela nous emmène à dire que ce monde malheureusement dans lequel nous vivons, ce monde aussi est aveugle. Ce monde est aveugle parce que lorsque nous naissons, nous savons, nous ne naissons pas avec le statut de chrétien. Nous devenons chrétiens, nous devenons des enfants de Dieu lorsque nous avons rencontré Jésus, qu'il devienne notre Sauveur et notre Seigneur. Donc tout le monde, y compris nous ce soir, nous sommes nés avec la cécité spirituelle. Nous étions nous aussi aveugles. Il n'y a personne qui naît directement avec la connaissance de Christ. Un bébé ne naît pas en commençant à louer Dieu, à chanter les cantiques, à prêcher la parole, à lire la parole. Il ne connaît pas encore Jésus. Tous naissent avec la cécité spirituelle. Et donc, le monde est plongé dans les ténèbres et dans la cécité donc spirituelle. La parole de Dieu, heureusement, nous dit que à tous ceux qui ont reçu Jésus comme nous ce soir, en Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il est question de la parole qui est Jésus, à ceux qui croient en son nom, cette parole qui est Jésus, nous a donné donc le pouvoir, leur donne donc le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et il est bien question donc de nouvelle naissance. Il est dit, ce n'est pas une naissance qui vient de la chair et du sang, qui est la naissance naturelle, mais c'est une naissance donc qui n'est pas de la volonté de Dieu, de l'homme, pardon, mais de la volonté de Dieu. C'est une naissance spirituelle. Alors ce soir, le titre de mon message est le suivant. La lumière ne brillera pas toujours. La lumière ne brillera pas toujours. Et c'est Jésus-Christ même qui nous le dit, qui nous le révèle. Dans l'introduction que j'ai lue, je reprends les versets 4 et 5 du chapitre 9 de Jean. Il dit, c'est Jésus qui parle, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Donc nous comprenons que les œuvres de Dieu que Jésus était venu faire, c'était des œuvres qui doivent se faire pendant le jour. Parce que lui-même dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, c'est là où il n'y a plus la lumière. Mais cette parole, en fait, c'est une parole prophétique. Parce qu'il s'agit, en fait, de ce jour qui n'est pas du tout la même notion, vous le savez, pour nous. La notion du temps n'est pas la même pour Dieu que pour nous. La parole de Dieu nous dit que un jour est comme 1000 ans devant Dieu et 1000 ans sont comme un jour. Cette parole, en fait, c'est une parole prophétique. Quand Jésus dit, il faut qu'il fasse encore, que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, parlant du Père, tandis qu'il est jour, il parle du temps de la grâce. C'est cette grâce-là dont nous l'avons chanté ce soir. tant qu'il est encore le temps de la grâce, nous devons, il doit faire donc les œuvres de Dieu. C'est de ce jour-là qu'il parle, de ce temps de la grâce dont il est en train de parler. Et lorsqu'on continue, il est dit justement, pendant, tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ce qui veut dire que le monde a besoin d'être éclairé. Si Jésus dit, je suis la lumière du monde, la lumière est nécessaire quand on a besoin donc de chasser les ténèbres, d'éclairer quelque chose. On prend sa lampe, on éclaire parce qu'il y a des ténèbres, et on a besoin d'éclairer, on a besoin de mieux voir. Donc Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que le monde a besoin d'être éclairé. Le monde donc a besoin d'être éclairé. Le monde a besoin d'être éclairé, mais pas de n'importe quelle lumière et pas de n'importe quelle manière, mais uniquement de la lumière du Christ, de la lumière de Jésus. Car Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit « je suis une lumière parmi d'autres lumières ». Il n'a pas dit qu'ainsi d'autres lumières peuvent ou pourraient éclairer le monde. Il dit « je suis la lumière du monde ». Il dit ainsi qu'il est la seule lumière. C'est la seule lumière qui est nécessaire pour éclairer le monde. Et c'est ce que nous devons dire aux hommes. Nous devons annoncer Jésus-Christ et pas autre chose. Nous devons dire aux hommes que pour être sauvés, ils ont besoin de Jésus-Christ. Nous ne devons pas leur laisser croire qu'il y a un autre chemin pour être sauvés. Nous ne devons pas leur laisser croire qu'il y a un autre moyen, pour atteindre le salut de l'âme. Nous devons annoncer Jésus-Christ, pas autre chose. Nous devons faire donc attention à ce que nous annonçons, parce que nous pourrions perdre notre temps des fois à annoncer autre chose que Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous tromper, bien-aimés, les bonnes manières d'une personne ne pourront pas la sauver. Nous en connaissons tous dans nos relations des gens qui ont de bonnes manières. Les bonnes manières d'une personne ne pourront pas la sauver. La capacité de bien s'exprimer ne peut pas sauver quelqu'un. Il y a des gens qui font de très beaux discours. Il y a des maîtres de conférences dans le monde entier qui savent faire de beaux discours, qui s'expriment impeccablement dans un langage très soutenu et qui est très agréable à écouter. Mais cela ne sauve pas non plus. Ce n'est pas non plus l'intelligence aussi remarquable soit-elle d'une personne qui peut donc la sauver et tout autre critère que nous pourrions considérer qui pourrait sauver des personnes. Non, c'est Jésus-Christ seul. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Et en discutant avec certaines personnes, on pourrait se laisser persuader. Et on doit faire très attention. On pourrait se laisser persuader que ces personnes sont tellement bien, elles sont tellement correctes dans leur présentation, dans leur manière d'être, dans leurs relations sociales. Elles sont tellement bien que leur qualité pourrait leur ouvrir les portes du ciel. Et tout ça, c'est un égarement. Personne ne peut être sauvé par ses propres mérites. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Jean 14, 6 nous dit, quand Jésus a dit justement qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il a bien précisé, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi, c'est clair. Il n'y a pas donc à faire de dissertation dessus. Nul ne peut venir au Père que par Jésus-Christ. Jean 8, 12, Jésus parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Donc on retrouve ce qui a été dit dans Jean 9, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce qui veut dire que celui qui ne suit pas Jésus, il marche dans les ténèbres. De manière consciente ou de manière inconsciente, du moment où une personne n'est pas en train de suivre Jésus, cette personne marche dans les ténèbres. Parce que ce monde est dans les ténèbres. Il faut la lumière de Jésus pour éclairer le monde. Il faut la lumière de Jésus pour éclairer une âme. Ésaïe 42, 1, parlant de Jésus, de sa mission qu'il était venu accomplir pour nous sauver, dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations ». Les nations, donc, constituent le monde. Et donc, les nations ont besoin de connaître la justice de Jésus-Christ. Il est venu pour annoncer donc la justice. Ésaïe 42, 6 dit, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé, il s'agit de Jésus, je t'ai appelé pour le salut. » Donc c'est ça le but final. Le but final, lorsque nous annonçons Jésus, c'est d'annoncer aux hommes et aux femmes le salut. Le salut en Jésus-Christ. Et ainsi, bien-aimés, nous ne devons pas quelquefois perdre notre temps. Nous pourrions parler de toute autre chose, parler par exemple de la prospérité matérielle. Quand bien même Dieu bénit, et Dieu bénit effectivement et en abondance, et même les personnes qui ne le connaissent pas, Dieu répond favorablement aux besoins de tous et il bénit abondamment. Mais nous ne devons pas oublier que le but, c'est d'annoncer le salut en Jésus-Christ et pas autre chose. Le salut en Jésus-Christ. Et la fin du verset, la suite du verset 6 que je viens de citer et le verset 7 dit ceci, « Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Nous voyons à chaque fois que ça revient, pour être la lumière des nations. Ce qui avait été annoncé par Ésaïe s'est accompli donc avec la venue de Jésus, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Par le verset 7, nous comprenons ainsi que justement cela atteste que toute personne qui ne connaît pas Jésus d'une manière ou d'une autre, c'est une personne qui est captive. Captive de la tromperie de ce monde, de la tromperie du diable. C'est une personne qui est emprisonnée, qu'elle soit consciente, qu'elle ne le soit pas. Elle est emprisonnée et Jésus est venu parce que Satan aussi est venu. Lui, il est venu pour égorger, voler et détruire. Et Jésus, lui, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour libérer les captifs, pour rendre la vue à ceux qui ne voyaient pas, comme cet homme dont nous avons lu le récit en début donc de ce message. Mais ce que nous devons savoir, c'est que cette lumière, elle est là, c'est vrai, mais elle est là encore que pour un temps. Cette lumière n'est là que pour un temps. Et nous ne devons pas l'oublier parce que le temps passe, on voit la vie qui continue, nous nous affairons à nos différentes responsabilités et on pourrait oublier que le temps passe et que cette lumière n'est là que pour un temps. Et c'est ça qui trompe les hommes parce que depuis le temps que l'évangile est annoncé, le monde est toujours là. Jésus a bien dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Donc la nuit arrive. La nuit arrive bientôt. Et tandis qu'il fait encore jour, c'est-à-dire jour de grâce, temps de grâce, depuis que Jésus est venu, nous devons donc annoncer aux hommes, effectivement, que Jésus-Christ revient très bientôt. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais en fait, dans la réalité, Jésus n'est plus de ce monde. Puisqu'il a été crucifié, il est ressuscité, il est reparti auprès du Père, il est assis sur le trône à la droite du Père, nous dit la parole de Dieu. Donc, comment donc cette parole, nous pourrions la prendre ce soir, la considérer en disant, oui, Jésus a dit effectivement qu'il est la lumière du monde, mais Jésus n'est plus là. Il est parti. La Bible ne dit-elle pas en Jean 13, 1, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était arrivée, était venue, de passer de ce monde au Père. Il savait que son heure était arrivée, donc il savait bien qu'il allait quitter ce monde, n'est-ce pas? Il savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il va mettre le comble à son amour pour eux. Donc il savait qu'il devait quitter ce monde. Et 1 Pierre 21-22 nous dit ceci, donc parlant notamment du baptême d'eau, de la purification des souillures du corps, et de notre engagement envers Jésus par le baptême d'eau, il est dit justement, c'est Jésus qui nous sauve, par la résurrection de Jésus-Christ, il est dit qui est à la droite de Dieu. Jésus-Christ est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, parce que Jésus n'est pas resté effectivement l'homme, Jésus. Avant qu'il ne vienne dans le monde, c'était Dieu, Dieu de toute éternité. ayant accepté pour un temps de venir sur la terre en tant qu'homme. Mais il n'est pas resté homme. Effectivement, il a retrouvé toute sa divinité, toute sa gloire, toute sa suprématie, toute sa condition de Dieu, d'être divin qu'il avait. Avant de revenir dans le monde, il est reparti dans cette condition divine auprès du Père, effectivement. Et c'est ce que Pierre donc nous dit, 1 Pierre. Donc il est dit, depuis qu'il est allé au ciel, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc si on s'en tient à ça, on pourrait dire, mais on voit bien, on a la preuve que Jésus est parti. Donc il n'y a plus de lumière dans ce monde. Ce qu'il a dit là, c'était uniquement pour le temps où lui-même était là. Mais nous, nous savons que ce n'est pas cela, n'est-ce pas? Nous savons au contraire que Jésus est toujours là. Et comment est-il toujours là? Comment se fait-il que Jésus soit encore présent? Comment pouvons-nous considérer cette parole qu'il a dite, tandis « Je suis la lumière du monde et il faut que j'accomplisse les œuvres que le Père m'a données donc à accomplir, tandis qu'il fait encore jour. » Cela, oui, est toujours réel et toujours vrai. Jésus agit toujours dans ce monde parce que Jésus a son corps dans ce monde. Jésus a dans ce monde son Église, s'est racheté. Et c'est en nous et à travers nous qu'il continue à faire ses œuvres. Et c'est pour ça que cette parole est toujours d'actualité. Lorsqu'il dit qu'il est la lumière du monde et qu'il doit faire les œuvres que le Père lui a donné à faire, tandis qu'il fait encore jour, cela est vrai désormais à travers l'Église. Car l'Église représente Christ sur la terre. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 5, 14, 16, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Il a dit « Je suis la lumière du monde », mais il dit à tous ceux qui lui appartiennent, à tous ceux qu'il a rachetés par son sang versé à la croix, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres ont pour objectif qu'une seule chose, pas pour nous élever, pas pour que les gens puissent nous apprécier, pas pour que les gens puissent nous aduler, pas pour que les gens puissent nous acclamer. Nos bonnes œuvres n'ont qu'un but, qu'un objectif, pour que le Père soit glorifié. Ce sont ces œuvres-là que Jésus donc a déclaré faire, tandis qu'il était encore là en tant que lumière du monde. Mais ce sont ces mêmes œuvres que nous sommes appelés à faire, car Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes une maison de Dieu en esprit. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes les rachetés de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes cette épouse qu'il revient chercher. Et c'est à travers nous, c'est en nous et c'est par nous qu'il veut continuer à accomplir ses œuvres, qu'il veut continuer à agir en tant que lumière du monde pour éclairer les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Nous devons être conscients de cela afin que cette parole que Christ a déclarée un jour puisse continuer à s'accomplir à travers nous. Vous êtes la lumière du monde, la lumière qui est venue éclairer ce monde. Bien-aimés, la trompette, elle va bientôt sonner. L'Église par laquelle Jésus-Christ est toujours dans le monde pour éclairer ce monde va bientôt être enlevée. La lumière ne brillera pas toujours. Nous devons en être conscients. Il y a encore tant d'âmes à sauver. La lumière ne brillera pas toujours. 1 Thessaloniciens 4, 16 nous dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et ça se passe dans les cieux, dans le royaume de Dieu. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. descendra du ciel. C'est le Seigneur Jésus qui descendra sur les nuées. Il descendra du ciel sur les nuées. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, de tout chrétien vivant à ce moment-là, quand cet événement extraordinaire qui va bouleverser le monde se réalisera, les chrétiens vivants à ce moment-là seront transformés, recevront un corps céleste, un corps glorieux pour qu'ils puissent monter, partir, être aspirés, appelés vers Jésus-Christ. Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront eux aussi avec ce corps glorieux, céleste, transformé. Et ensuite, les vivants en Christ seront transformés. Ce sera un événement extraordinaire que le monde ne peut pas imaginer. Parce que même si les plus grands films cinématographiques avec les effets spéciaux qu'on peut avoir aujourd'hui arrivent à décrire de manière assez extraordinaire qui puisse attirer l'attention des faits de ce genre-là. Nous avons des films qui essaient de reproduire ce que décrit la Bible ou d'autres événements. Mais lorsque cet événement se réalisera réellement, ce ne sera plus un film, ce sera la réalité. Le monde, même les gens qui ont eu l'habitude de voir des films, les films sur Moïse, les films sur l'enlèvement de l'Église, les films des super-héros, de Spider-Man et autres, même si les gens ont eu l'habitude d'aller au cinéma et de s'habituer aux effets spéciaux qui paraissent rendre les choses plus vraies que nature, le jour où cet événement se réalisera, personne n'aura jamais vu ça. Personne n'aura jamais vu ça. L'Église partira et la lumière cessera de briller. Car la lumière brille encore parce que l'Église est là. Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière, donc, du monde. Ainsi, bien-aimés, parce que ce temps arrive où le monde ne sera plus éclairé, faisons les œuvres que Dieu nous a confiées, tandis qu'il est encore jour, tandis qu'il est encore temps de grâce. Parce que cette parole, effectivement, à un moment donné, n'aura plus lieu d'être. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Puisque nous serons enlevés, nous serons. Cette parole n'aura plus lieu d'être. Et qu'adviendra-t-il de ce monde? Les ténèbres, alors, pourront prendre toute leur place dans ce monde avec l'Antichrist, avec tout ce que les gens vont subir comme jugement de Dieu qui tombera. Donc, dans ce monde. Et c'est pour cela que Dieu veut trouver en chaque chrétien une personne qui soit disponible. Disponible pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ. On n'a pas besoin pour cela de remplir un ministère d'évangéliste, ni de pasteur, ni de docteur de la loi, ni d'ancien, ni de diacre. On n'a pas besoin de ça. Chaque chrétien dans le monde entier doit être un canal par lequel Christ est annoncé pour le salut des âmes. Parce qu'un jour, la lumière cessera de briller. Tandis que la lumière brille encore, Dieu doit pouvoir trouver en chaque enfant de Dieu une personne qui soit disponible. Dans notre travail, dans notre vie quotidienne, une personne qui soit disponible pour continuer à parler de Christ et de l'amour de Dieu pour les hommes, car trop d'hommes, trop de personnes meurent sans Christ et partent dans la perdition éternelle. Le but, c'est de rendre impuissant celui qui exerce encore la puissance de la mort contre les hommes. Hébreux 2, 14, 15 dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc c'est nous, nous sommes des hommes, Dieu nous a créés, dans un corps de chair et de sang. Il est question de nous, de ceux qui participent au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même. Là, il s'agit de Jésus qui est venu en tant qu'homme. Lui-même a accepté de venir aussi dans un corps de chair et de sang. Sa vie, donc, il est dit, afin que par la mort, il est question de son sacrifice, de ce qu'il a accompli à la croix pour nous sauver, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a la puissance de la mort et il exerce cette puissance contre les hommes et les femmes que Dieu a créés. Et nous qui sommes la lumière du monde, nous devons annoncer le salut aux hommes pour que cette puissance qu'exerce le diable contre ces personnes puisse être détruite au nom de Jésus et que la lumière de la vie pénètre dans la vie des hommes et des femmes. Oui, il est venu pour que celui qui a encore la puissance de la mort soit dans la défaite et que ce soit la vie qui triomphe. Et ça, c'est à travers nous, la lumière du monde. Et si nous revenons à notre personnage du début, à cet homme qui, un jour, dans la grâce de Dieu, a rencontré Jésus. Jésus a accompli un miracle extraordinaire dans sa vie. Il avait recouvré la vue. Il n'était plus aveugle. Heureusement pour lui, s'il est vrai qu'au départ, il avait la double cécité, mais il sera délivré de cette double cécité. Et c'est ça que Dieu veut faire dans la vie de tous les hommes. Il sera délivré de cette double cécité. En Jean 9, 35, 38, Jésus apprit qu'on l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, donc là, il n'est plus aveugle. Il a bénéficié du miracle qui a permis au nom de Jésus que ses yeux s'ouvrent. Il voit maintenant le monde dans lequel il vit. Jésus lui dit, donc, crois-tu au Fils de Dieu? Et lui, il va répondre, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Donc, à ce moment, il ne connaît pas encore Jésus. Et Jésus lui dit, tu l'as vu, lui dit Jésus. Celui qui te parle, c'est lui. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Le Jésus dont tu as entendu parler, qui est fils de Dieu, c'est moi. Moi qui viens de t'ouvrir les yeux. Et à ce moment, la Bible nous dit, il va dire à Jésus, je crois, Seigneur. Sa cécité spirituelle aussi va partir. La lumière de la vie entre en lui. Et il croit réellement que le Jésus qui lui parle est fils de Dieu. Je crois, et regardez ce qu'il fait. La Bible dit, il va adorer Jésus. C'est la preuve qu'il croit vraiment. Parce qu'il n'y a que Dieu qu'on doit adorer. Il n'y a que Dieu qu'on adore. Lorsque vraiment nos yeux s'ouvrent, nous ne pouvons plus perdre notre temps à considérer des idoles et toutes sortes de choses qui n'est pas Dieu, mais nous ne pouvons adorer que Dieu. Ses yeux se sont ouverts, spirituellement parlant, et là, il adore Jésus. À ce moment, il est délivré également de sa cécité spirituelle. Et c'est ce que nous devons annoncer aux hommes. Afin que cette même œuvre de bénédiction et de délivrance puisse s'accomplir dans la vie donc de tous les hommes. Et je voudrais juste m'arrêter avant de terminer sur le verbe recouvrer. Recouvrer signifie récupérer ce qu'on nous avait pris, ce qu'on n'avait plus, rentrer en possession de ce qu'on avait perdu. Le verbe utilisé là, il n'est pas utilisé simplement, mais c'est volontairement. Il a recouvré la vue. Il a recouvré quelque chose qui lui avait été pris. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable, donc, avait cru faire du mal à cet homme, mais Jésus avait dit, n'oubliez pas, il avait dit, c'est ta fin dans la vie de cet homme, que les œuvres de Dieu puissent s'accomplir. C'est afin que les œuvres de Dieu puissent s'accomplir dans la vie de cet homme. Là où le diable pensait lier cet homme, Jésus, rencontrant cet homme, va détruire les œuvres du diable et il va recouvrer, il va récupérer ce qui lui avait été volé. Et c'est ce qu'il faut dans la vie de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je vous laisse un verset final sur votre cœur en 2 Corinthiens 5, 14. car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse-t-il? L'amour de Christ doit nous presser. Presser pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Pour ne pas regarder notre prochain mourir sans Christ. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous qui vivons, comme a dit l'apôtre par le Saint-Esprit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous sommes désormais des esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes enrôlés dans l'armée de Christ. La lumière cessera de briller bientôt et chaque lumière que nous sommes en Christ doit continuer à briller jusqu'à ce que la trompette sonne, parce que la lumière ne brillera plus après.